Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous m'excusez pour la petite incartade d'hier. On n'a pas pu finir notre chapitre. Je n'ai pas fait remplacer ma box free qui déconne et qui déconnait bien avant le confinement. Et voilà que je n'ai plus internet, donc je dois faire des streams avec de la 4G, ce qui ne marche pas très bien, je dois avouer. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le cinquième épisode d'Oasis interdite d'Ella Maillard. Et hier, vous n'avez pas pu avoir la fin, mais du coup, ils comprennent qu'à Sinning, la dernière ville avant de partir, ils ne trouveront pas d'interprète. Et donc, ils sollicitent une permission pour aller à Kumbun. Et cette permission leur est donnée. Voilà, on en est là. Chapitre 8. Kumbun. Il nous faut une demi-journée pour atteindre Kumbun, le plus grand monastère du pays d'Amdo, qui habite 3000 moines tibétains, mongols et chinois. Chaque année, des pèlerins s'y rendent en grand nombre avec de riches offrandes qui leur assureront une place au ciel après leur mort. Il y a tant d'or à Kumbun qu'on en a couvert les grands toits de cuivre des pagodes. Le principal pèlerinage a lieu en hiver à la fête des fleurs pour laquelle les lamas passent des semaines à sculpter des décors fleuris, de beurre colorié que le froid fait figer. Unaki, vers 1358, le réformateur Tsongkhapa, fondateur de la secte jaune tibétaine. L'endroit s'appelait alors Tsongkha, ou vallée des oignons. On dit que des gouttes de sang tombées du cordon ombilical de cet enfant prédestiné firent naître un arbre en forme d'ombrelle, aux 100 000 feuilles en ailes de perroquet, dont le parfum se répandait à plus de 4000 toises. La feuille de cet arbre reproduit la figure du Bouddha. Ce tronc légendaire serait encore vénéré, disent les lamas, dans une tour à reliques, ce qu'on appelle les shorten, sous la grande pagode du couvent. En arrivant, on franchit un petit col, et Kumbun apparaît tout à coup, construite en amphithéâtre dans un vallon dénudé, avec ses pagodes au toit d'or qui scintillent comme des joyaux parmi les terrasses incolores des habitations, avec la blancheur de ses longs murs passés à la chaux où se pressent les logements des moines. C'est tout le charme de Kumbun, cette blancheur lumineuse au milieu des teintes de pastel qui s'harmonisent sous le ciel bleu pâle. Terre beige, or adouci des pagodes, arbres gris sans feuilles et taches brun-rouges des lamas entortillés dans leur toge qui les rend manchots. De loin, ces saints hommes sont bien enveloppés dans leurs jupes dont les mille-plis s'évasent vers le bas et semblent autant de tulipes ambulantes. Nous franchissons le profond ravin à sec, nous longeons une rangée imposante de 8 shorten en forme de casque à pointe et par un chemin pavé que dominent 2 meules de foin hautes de quelques 12 mètres, nous entrons enfin dans une cour protégée par une double enceinte de communs et d'écuries. C'est la résidence du secrétaire laïc de Kumbun. Dans une chambre sombre de style chinois, à brasero rougeois. Drapé dans sa toge, un grand homme édenté nous fait asseoir sur le kang et, pour nous faire les honneurs du thé, il écarte son boulier et son écritoire. Mais il faudrait pouvoir converser. Et ce n'est même pas possible avec l'aide de notre vieux soldat aux yeux morts, aux genoux tremblants, sans doute affaibli par le manque d'opium depuis que nous avons quitté Sinning. Près de moi, un bol de bois est plein d'une poudre grise, qui semble être du sel fin, sur laquelle 2 plaques de beurre sont dressées l'une contre l'autre. Avec dignité, le secrétaire nous fait signe de nous servir. Peut-être est-ce pour la forme ? Je refuse, tout en goûtant du doigt la poudre inconnue qui est des plus fades. Serait-ce de la cendre nécessaire à un rite religieux ? Mais quand vient son tour, notre vieil homme se sert et d'un doigt habile mélange poudre, beurre et thé qu'il manaxe et réduit en boule. Cette fois j'y suis. C'est la célèbre tsamba, la nourriture tibétaine faite avec de la farine d'orge grillée. Cette tsamba que nous devrions apprendre à considérer comme le plus précieux des biens de la terre. Un serviteur lama nous conduit au premier étage, dans une chambre propre, au kang recouvert d'un tapis où chante une théière au bord d'un grand plat de braise ardent. Par terre, dans un coin, une cuvette pour les ablutions. Au milieu de la nuit, je suis réveillée par des coups de cymbales éclatantes et de gongs sourds, par la voix lugubre des kongs. Appelle-t-on les religieux à la prière ? Ou chasse-t-on ainsi les démons des ténèbres ? J'attends le grand jour pour sortir de mon sac de couchage. Le petit déjeuner est inoubliable sous la galerie de bois sculpté où donne notre chambre. Cette galerie entoure une cour sur trois côtés. Devant nous s'élève un petit temple désaffecté sous le porche duquel sèchent des centaines de beignets qui sentent bon la friture. Le soleil fait chanter toutes les couleurs qui ornent sa façade de boiserie, surchargée de motifs géométriques. Le rouge, l'or et le brun dominent. Des rosaces, des flèches, des caractères tibétains et népalais semblent contrefaire une dentelle. Un grand mât portant une oriflamme couverte de prières se dresse au centre de la cour. Tout auprès, un chameau grince des dents, attaché à notre carriole. Et, dominant toute cette scène, les toits à étages des deux grandes pagodes s'échelonnent sur la pente de la colline. Les façades extérieures des bâtiments de l'administration, où nous demeurons, sont peintes en rouge sombre, avec des fenêtres bizarres, entourées d'un cadre clair qui s'élargit vers le bas. Leurs terrasses qui servent de toit reposent sur trois ou quatre lits de poutrelles, dont les extrémités font saillie et reposent elles-mêmes sur le mur par le moyen de fascines tendues au ras de la façade. Le premier pas dans ce dédale nous font rencontrer la vaste cuisine des fêtes, où trois gigantesques chaudrons posés sur leur foyer ne servent que lors de grands pèlerinages ou lorsqu'un dévot décide de régaler tout le couvent d'un bol de thé. Au mur sont alignées les seilles de bois, cerclées d'étain, qui servent à transporter le breuvage. À chaque pas de là, une chapelle abrite un énorme cylindre surchargé d'ornements. Tout fier, semble-t-il, un gros paysan le met en mouvement sans effort. C'est un moulin à prière, à l'intérieur duquel des litanies sans fin sont inscrites sur des rouleaux de papier. Des appareils semblables sont disposés dans tous les recoins du monastère, parfois réunis en batterie, et tournent inlassablement pour faire monter les supplications vers les dieux. Mais tout à coup, sans transition, sans accès monumental, nous voici dans un étroit parvis où donne la plus sainte des pagodes, et où pousse un rejet de l'arbre merveilleux au signe bouddhique. Mais c'est l'hiver et l'arbre est sec. La pagode est de style chinois, basse, avec des toits aux coins retroussés. Une galerie aux colonnes, recouverte d'étoffes jaunes, au sol de bois poli, règne sur toute la façade du temple. Et en ce moment, une dizaine de croyants, lamas à jupe ou simples pèlerins, sont là, et sans arrêt se jettent à plat ventre, se redressent sur leurs genoux, se relèvent, s'agenouillent, s'aplatissent à nouveau. Ce rite pour lequel la main est rembourrée de feutre afin que la paume glisse mieux sur le bois s'accomplit depuis tant de siècles que le plancher poli est creusé de profondes ornières. Je passe entre ces dévots pour pousser la porte du sanctuaire et un jet de lumière frappe le visage doré d'un grand bouddha de bois aux bras surchargés d'écharpes votives qui trône à l'endroit même où naquit son kappa. Devant lui est dressée une longue table d'offrandes, où le beurre brûle perpétuellement, dans une multitude de cupules. Quelques lamas, accroupis sur leurs talons, marmonnent des prières et, par l'obligeant sourire, me font comprendre que je ne dérangerai pas en prenant mes photographies. Une cour voisine, grande et belle, largement pavée, donne accès à la seconde pagode, vaste salle de prière précédée elle aussi d'une colonnade revêtue d'étoffes. L'intérieur, très obscur, est encombré de bannières de soie souvent peintes de sujets religieux. Des parois entières sont couvertes de casiers où reposent les livres saints. Au pied d'une colonne est assis en tailleur un prêtre, à la calotte surmontée d'un haut cimier jaune. Sur ses genoux est posé le livre sacré dont il murmure les prières et dont il passe, au fur et à mesure, les feuillets aux plus voisins des moines, novices et stagiaires accroupis devant lui, en rang parallèle. Les longues feuilles imprimées vont alors de main en main pour retourner à leur point de départ. Tous ces lamas au crâne tondu, jeune ou vieux, crasseux ou élégant, lettré tibétain au visage fin, mongol à la face pleine, ne paraissent souffrir aucunement du froid qui m'engourdit. Ils n'ont pourtant, outre leur toge bordeaux et leur ample jupe foncée, qu'un gilet sans manches, dont la crasse ne parvient pas toujours à masquer le riche brocart. Aux extrémités des rangs sont les petits chabis de 10 à 12 ans, reniflants et sales, qui ont peine à rester immobiles et plaisantent en cachette. Un serviteur passe d'une rangée à l'autre avec un grand broc de cuivre. De leur sein, les fidèles sortent leur bol en bois et, sans quitter leur position hiératique, ils aspirent tous goulûment leur thé au lait. Des temples de moindre importance sont disséminés partout dans la lamasserie. L'un est orné de peintures représentant des hommes écorchés vifs, des dieux ayant pour tapis de sel une peau humaine, pour parure un collier d'yeux et d'ossements humains. Ailleurs, ce sont des dragons de pierre, des animaux empaillés, yaks terrifiants, ours, singes, tigres. Et tout ce monde est rendu propice par des onctions de beurre. À Kumbum, la vie semble être immuable et se déroule comme il y a 100 ans, lorsque le père Huck y apprenait le tibétain avant son voyage à Lhasa. Chapitre 9. Far West chinois. Un marchand à Lhasa. Tout cela était passionnant à mes yeux, mais n'avançait pas nos affaires. Contre une riche offrande, j'aurais aimé obtenir du grand lama un insigne ou une lettre nous recommandant à tous ses co-religionnaires. Peut-être était-ce le seul moyen de fuir en nous moquant des autorités de Sining, mais nous ne savions ni comment, ni à qui parler. Il ne restait pourtant un espoir en la personne de Ma Chinte, riche marchand musulman qui vivait à Lhasa, petit village où aboutissent des caravanes. Nous y allâmes de Kumbum en une demi-heure de marche. Ces maisons de terre sèche, aux toits en terrasse, font penser à un village marocain. On s'y préparait à recevoir le Pachem Lama, qui, voulant rentrer au Tibet, allait passer par Kumbum d'ici quelques mois. Les chameaux, disait-on, étaient déjà réquisitionnés pour sa grande caravane. Mais on ajoutait qu'il ne passerait pas la frontière tant que 8000 fusils de contrebande se trouveraient dans ses bagages. Mais c'est Ma Chinte qui nous intéresse. Nous arrivons chez lui avec de modestes présents, le thé et le sucre reçus par nous-mêmes à Sining. Et en compagnie de 12 pendules déréglées, nous attendons le maître parti pour la prière de 5 heures. Thé et petit pain chinois, boules de pâte bouillie à la vapeur, nous sont offerts par les serviteurs qui défilent pour nous observer. Enfin, Ma arrive, sympathique avec son front bombé et son expression rusée. Peter essaie de se faire comprendre, et je ne sais s'il faut plus admirer la patience de Ma ou l'habileté de mon compagnon qui fait des grâces, s'excuse de sa tenue de voyage, sourit, se déclare indigne des compliments qu'il croit deviner. Profitant d'un répit lorsqu'il allume sa pipe, il m'avoue qu'il n'y pige de rien. En montrant une carte de visite de Smig, nommé Orozbe chez les Mongols, nous nous donnons comme ses meilleurs amis, désireux de visiter le Tsedam, en nous joignant à une grande caravane. Or Ma, je crois, doit encore de l'argent à Smig et a tout intérêt à être aimable. Comme il contrôle la plus grande partie du commerce au Tsedam, son appui est des plus utiles. De plus, ayant donné sa fille en mariage au jeune général, il n'est pas sans influence à Sining. Il nous présente donc Li, timide garçon aux yeux aigus et métis mongol chinois, qui part dans 5 jours avec une grande caravane et pourra se charger de nous jusqu'à Tet Jinar, où se trouve l'ancien associé de Smig. Puis, à la demande de Peter, Ma accepte d'écrire à Fang, le secrétaire du gouverneur, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de nous, puisque nous partirons avec un de ses hommes. De retour à Sining, nous adressons au gouverneur une belle lettre qui dégagera entièrement sa responsabilité s'il nous arrive quelque chose, car l'explorateur Dutreuil de Reims a été tué jadis dans la région, et plus récemment, en 1927, le Français Louis Marteau et son compagnon Louis Dupont ont disparu corps et biens quelque part dans le sud du Coucou Nord. Mais tous nos efforts portent enfin leurs fruits car le lendemain, Peter revient du Yémen avec le passeport tant convoité. Il a un beau visage d'écolier, soudain licencié, où un immense sourire a remplacé son expression flegmatique. Assurément, on nous inflige un homme d'escorte, mais seulement jusqu'à Tangar, où nous n'en resterons pas moins surpris de notre victoire inespérée. En faisant mes adieux aux sœurs autrichiennes, j'ai la chance de pouvoir me faire plomber une dent par l'une d'entre elles. Dernière occasion s'il en fut. Les maux de dents et l'appendicite, c'est toujours ce dont j'ai peur de souffrir après avoir tourné le dos à la dernière ville. Puis, compatissante, les sœurs me laissent m'enfermer dans leur dispensaire avec un seau d'eau chaude et je me livre à une battue en règle contre les parasites qui troublent mon sommeil, ce qui m'était impossible dans notre caravansérail. Une dernière fois, au restaurant chinois, nous invitant Lou, que nous ne pourrons jamais assez remercier de son aide. Dans la chambre contiguë, des Chinois mènent grand bruit. Ils jouent leur argent aux dominos et souvent fort. « Canpei !» dit le robuste Lou pour nous inviter à vider nos petites tasses pleines de shaodiu, eau de vie de grain qui se boit chaude et augmente notre belle humeur. Nous avouons à Lou en secret que nous ferons notre possible pour ne pas revenir à Sining. Nos plans ne l'effraient pas, car il a beaucoup voyagé et vécu longtemps à Urumqi. Dernière soirée civilisée, bientôt nous n'aurons plus ni délicieuse viande de porc, ni table, ni toit. Les derniers Européens. Nos deux carrioles couvrent rapidement les 42 km qui nous séparent de Tangar en remontant une vallée rocheuse qui émeut Peter en lui rappelant sa lointaine Écosse. Nous rattrapons une caravane dont plusieurs chamelles viennent de mettre bas. Ficelés sur leur dos, dans des paniers, leurs bébés floconneux pleurent sans cesse, affamés ou effrayés par les nuages de poussière. Une chamelle avance, le cou tordu en arrière pour répondre à son dos gémissant. À 2600 mètres d'altitude, près de la frontière tibétaine, Tangar a la réputation d'abriter les pires métis de l'Asie, au point qu'il est bon de n'ajouter foi au dire de personne et de tout cadenasser. Il gèle fort et une glace opaque comme de la bougie emplit le lit des ruisseaux. À l'auberge, pour une fois, le kang est chauffé. Il doit y avoir des arbres dans les environs, chauffés au point que je ne puis dormir, malgré les sacs et les tapis de feutre empilés sous moi. Rien d'étonnant s'il arrive que des bébés soient rôtis. Tangar, où réside un représentant du Dalai Lama, est bâti à flanc de montagne et ses ruelles en pente évoquent certains villages alpestres. Sa foire en plein air attire des tangoutes, tibétains du nord, splendidement hirsutes, un anneau d'or à l'oreille droite. Espérons quelques nouvelles de l'ouest, nous allons voir M. Marcel Uresh de la China Inland Mission. Cette fois, nous sommes reçus à bras ouverts, enlevés à notre splendide caravansérail et installés dans des chambrettes à lit ornées de crétonne. Monsieur Uresh, à qui j'avais cru devoir parler allemand, me répond en français qu'il ne connaît pas cette langue, est en Suisse de Neuchâtel. À vrai dire, le français de mon compatriote étant quelque peu rouillé, c'est en anglais que nous continuons notre bavardage. Mais il ne sait rien du Xinjiang, qui est à plus de 3 mois d'ici, car depuis 2 ans, personne n'a traversé l'immense Tsedam. En revanche, il n'est pas impossible d'atteindre vers le sud Jiukumdu, où le courrier postal va une fois par mois. Et c'est l'un des lieux du monde qui m'attire, situé près des sources du Yangtze, par-delà l'Amné Machin, aux 8000 mètres d'altitude. Madame Ulrich, une Écossaise pleine d'esprit, avait peine à nous prendre au sérieux. Est-elle possible que nous comptions traverser l'Asie avec un bagage aussi réduit ? Et il faut avouer que le manque d'instruments scientifiques, d'appareils cinématographiques et de boîtes de conserve dépréciait fâcheusement notre équipement. Mais Peter et moi étions bien d'accord sur ce point, instruits par nos précédents voyages. Madame Ulrich a vraiment un cœur en or. Elle devine mes désirs, elle sent que j'ai horreur de coudre et elle fabrique des sacs pour notre farine d'orge grillée, tsamba, pour le sucre et les fruits secs. Elle va même jusqu'à remettre un fond au pantalon que Peter m'a légué depuis qu'il se pavane dans des plus fours de cuir chamoisé. À vrai dire, en arrivant chez des missionnaires qui vivent loin de tout et ne voient souvent que des indigènes pendant un an ou davantage, il y a de grandes chances qu'ils vous dotent d'un tas de vertus imaginaires tant ils sont heureux de vous voir. Les visites sont si rares à Tangar que le jeune Malcolm, âgé de 3 ans, n'en a pas vu. C'est pourquoi il nous appelle les Mongols, ce terme étant à ses yeux synonyme d'étranger. Malcolm obtient aussi un succès mérité en appelant Peter, qui n'aime pas ça du tout, The Old Maiar. Madame Urek est fière d'avoir découvert que le brillant écrivain Fleming, dont elle vient de lire un article dans le Reader's Digest, ne fait qu'un avec le jeune homme dont on lui avait énoncé la venue probable. « Malcolm, regarde bien cet homme célèbre que nous avons l'honneur d'héberger, » dit-elle à son fils. « Mais ce n'est pas un Mongol ?» dit le petit garçon intrigué. « Mais ce n'est pas non plus un Chinois, puisqu'il ne sait pas le Chinois. » « Mais non, lui dis-je, c'est ce qu'on appelle en Europe un envoyé spécial, qui raconte dans tous les journaux les choses qu'il a vues. Mais il les raconte à sa manière et, par exemple, il prétend que ma lingerie prend trop de place alors qu'elle comporte 3 sweaters et 3 caleçons de laine. Et pendant ce temps, c'est lui qui encombre mes caisses avec ses énormes boîtes de tabac. « Ma chère amie, interrompiteur, si vous ne cessez de respecter, je télégraphie à la vie parisienne qu'on vous rappelle immédiatement. » Madame Urek, je lui ai déjà dit 100 fois que le petit Parisien est tout autre chose que la vie parisienne. Et figurez-vous qu'à son avis, un chameau doit me suffire pour traverser l'Asie. Ce qui ne m'empêchera naturellement pas de prendre un cheval, car je ne vois pas pourquoi ce serait le seul à jouer le seigneur. Mais oui, dit-il, vous seriez bien mieux sur un chameau, comme vous en avez pris l'habitude dans les autres voyages. Non, fit Madame Urek. Elle doit pouvoir devancer la caravane pour mieux préparer la nourriture du seigneur. « Oui, fis-je, je vais devenir la cuisinière de mon interprète. Peter, j'ai reçu des abricots secs, des oignons. »« Reçu ? Vous avez simplement pillé Madame Urech. Je reconnais le vieux loup de mer. Rendez ces abricots, ils sont superflus. »« Écoutez-le, Madame Urek. Il ne sait même pas ce qu'est le scorbut. Il veut traverser le Tibet. » Mais voyant ce que le cow-boy chinois apporte, je m'écris involontairement. « Chic ! Il y a 2 confitures aujourd'hui !»« Maillard, réellement, vous jetez la honte sur l'expédition, » dit Peter. Noir de poussière, Peter arrive ce matin de Loussard, où il est retourné au renseignement avec Engan, homme de confiance de la mission. Ayant quitté l'auberge où Lee devait nous rejoindre, nous avions eu peur de le manquer et d'autre part, nous n'étions pas très sûrs de ce qu'avait arrangé Machinte. Grâce à l'enquête de Peter, nous apprenons que le prince de Zun, à la tête de 250 chameaux, est parti pour rentrer chez lui sur ses terres au Tsedan. Nous allons le rattraper. 4 chameaux loués transporteront nos caisses pendant 17 jours à raison de $8 par animal. Lee, qui recevra $10 par mois, viendra nous chercher demain. Peter avait même appris un détail charmant qui montre à merveille comment se déroula sa conversation lors de notre première entrevue avec Ma. Ce dernier, regardant vers moi, avait demandé « Quel est son âge ?»« Nous sommes seulement amis », avait dit Peter. Le vrai départ. Le 29 mars 1935, un mois et demi après avoir quitté Pékin, nous sommes sur le point de partir. Au bureau de poste. Dans combien de mois verrons-nous le prochain ? Nous avons affranchi notre courrier pour l'Europe. Si tout va bien, et j'écris à la maison, d'ici 6 mois, ma prochaine lettre sera datée des Indes. Si dans un an vous ne savez rien de nous, il sera temps de vous inquiéter. Belle perspective dans un siècle d'avions et de radiotélégrammes. Nous ne rencontrerons plus de marché. Tout a été acheté, mis en caisse ou en sac. Les briques de thé agglomérées et le kouti pour notre marchandage avec les indigènes, l'orge pour les chevaux, les selles, musettes, cravaches, entraves, arches, cordes, etc. J'ai passé mes soirées à me ressouvenir de tout ce dont j'ai eu besoin lors d'expéditions précédentes. J'ai voulu faire appel aux lumières de Peter et il a découvert qu'il nous fallait un hameçon pour les poissons des rivières. À vrai dire, les cours d'eau marqués en pointillé sur la carte sont rares ou capricieux au Tsedam. Heureusement, nous devons trouver des moutons qui feront la base de notre nourriture. Maintenant, dans la cour de la maison chinoise des Urek, les chameaux accroupis sont lentement chargés. Un mongol au torse nu et dégagé de son manteau de mouton soupèse une caisse contre sa poitrine, l'appareil à une autre, et les lie toutes deux d'une corde de crin. Puis, avec l'aide de son compère, il équilibre la double charge sur le bar embourré. Lorsqu'on bouscule trop ces deux bosses, le chameau proteste en grognant comme une porte qui grince. Parmi les Chinois vifs qui nous entourent, Li, avec ses petits yeux presque fermés, me semble endormi. Et pour l'instant, il est incapable de comprendre le moindre mot que lui adresse Peter. Nous traversons Tangar. Une dernière fois, nous sortons par la porte du sud et, de l'autre côté du pont, nous prenons congé des Ureks, ces charmants et secourables amis. Pour tromper les mauvais génies qui pourraient punir notre présomption, nous remarquons en plaisantant. Nous ne disons pas adieu, nous allons revenir dans quelques mois, refoulés par la guerre des Xinjiang ou par les autorités de Lhasa. Puis nous marchons vers les grandes solitudes de l'Asie. Mon bon cheval, où je trône sur une selle de bois, aux arçons élevés, rembourré de mon sac de couchage, mon bon cheval, tout fou d'avoir quitté l'écurie, zigzague en tous sens, et je le baptise Slalom, en pensant à mes skis, dont je ne me servirai pas cet hiver. Laissant le bourg et son minaret au toit superposé, nous tournons la tête de nos montures vers le couchant. Nous n'avons plus qu'à continuer dans cette direction pour atteindre le Xinjiang. Par où exactement et combien de mois? C'est ce que nous ne cherchons même pas à nous figurer. Je suis toute à la curiosité de cet avenir incertain, au sentiment d'être délivré désormais des obstacles des hommes. Tout à la joie de sentir que chaque jour maintenant sera neuf, et qu'aucun ne se présentera deux fois. Tout à mon application de n'observer plus qu'une seule règle, celle de marcher droit devant moi. Eh bien, c'était les chapitres 8 et 9 de Oasis interdite de la Maillard. Je dois vite rendre l'antenne parce qu'il y a Caroline de Compte-Gouttes qui vous parle juste après. Les podcasts seront prêts bientôt, mais il faut que je réenregistre tous les chapitres précédents. Vous avez déjà le chapitre 1 qui est disponible en podcast, mais on a un problème avec la Pitchbox qui nous permet de raccrocher tout ce qu'on a enregistré en ligne. Je ne l'ai pas enregistré par ailleurs, donc je dois tout enregistrer, mais ça arrive très très vite. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches et continuez à écouter Campus Grenoble 90.8.
Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.